Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La vérité ne menace pas la liberté. Nous allons en parler dans cette émission. Jean-Paul II l'affirmait dans sa 10e encyclique il y a 20 ans, tout juste. Et le pape François le souligne également dans son message pour la prochaine journée missionnaire mondiale. Le pape François qui rend un hommage appuyé aux chrétiens victimes de persécutions qui risquent leur vie pour demeurer fidèles à l'évangile du Christ. Dans ce magazine, nous irons également au Liban où des jeunes volontaires viennent en aide aux habitants d'un village bombardé sans distinction de classe, de religion. Ou d'opinion. Et en fin d'émission, retour sur le cinquantenaire du Concile Vatican II. Il y a 20 ans, tout juste le 6 août 1993, en la fête de la Transfiguration de Jésus, Jean-Paul II signait sa 10e encyclique Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, sur quelques questions fondamentales de l'enseignement moral de l'Église. Un texte ardu, mûri pendant des années et publié peu après l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est. Un texte qui analyse les fondements de la doctrine morale de l'Église dans un monde en crise, désorienté, en quête de normes. Sûre. Jean-Paul II pointait du doigt les dérives de certains courants de la pensée moderne. Un texte très actuel, Olivier Bonnel.
À la fin du XXe siècle, le pape polonais constatait qu'une grande partie de l'humanité avait perdu le sens de Dieu et le sens du péché, avec comme conséquence le rejet de la morale. Or, ce vide moral met l'homme à la merci des idéologies. Jean-Paul II lançait donc une mise en garde contre le risque d'alliance entre la démocratie et le relativisme éthique. La liberté doit d'abord être soumise à la vérité. Si l'homme l'oublie, la liberté risque de se détruire elle-même. Le pape entrait ainsi dans le domaine de la morale fondamentale, en s'attardant non pas sur des règlements normatifs ou des préceptes, mais en définissant des fondements sur lesquels elle repose. Un complément, en quelque sorte, du catéchisme de l'Église catholique, publié un an plus tôt. Le texte souligne que la question morale ne peut trouver de réponse que grâce à la vérité. La vérité, selon Veritatis Splendor, ne dépend pas de la subjectivité de chacun. Elle est objective, elle existe en soi. Elle est inscrite dans le cœur de l'homme à travers la morale naturelle. La vérité, in fine, est donc Jésus lui-même. Ce texte, qui semble annoncer le magistère de Benoît XVI, allait inévitablement susciter des critiques acerbes et créer des remous, aussi bien dans le monde laïque que parmi les catholiques, renforçant l'image d'un pape conservateur et d'une église réactionnaire. Un texte à contre-courant des idées et de la mentalité ambiante, une encyclique actuelle, comme cette formule si juste et pourtant décriée de Jean-Paul II, « La liberté a besoin d'être libérée ».
Voilà la splendeur de la vérité, c'était il y a 20 ans. Le pape François est proche par la prière des personnes, des familles et des communautés chrétiennes qui endurent la violence et l'intolérance. Il l'affirme dans son message pour la prochaine journée missionnaire mondiale qui sera célébrée le 20 octobre. Un texte qui appelle tous les disciples du Christ à proposer l'évangile avec courage et respect. Car la foi est un don qui doit être partagé, faute de quoi nous risquons de devenir des chrétiens isolés, stériles et malades. Le Saint-Père tient à rassurer ceux qui craignent de faire ainsi violence à la liberté des autres. Le caractère missionnaire de l'Église n'est pas un prosélytisme, mais un témoignage de vie qui illumine le chemin, qui porte espérance et amour. Ce devoir, souligne le pape François, est encore plus urgent en cette période de crise, alors que l'horizon est assombri par des nuages menaçants. L'homme de notre temps a besoin d'une lumière sûre qui éclaire sa route et que seule la rencontre avec le Christ peut donner. L'Église n'est pas une entreprise ni une ONG. L'engagement apostolique n'est pas complet s'il ne rend pas témoignage du Christ devant les nations et face à tous les peuples. Dans son message, le pape François exhorte par ailleurs les églises, où les vocations sont nombreuses, à aider généreusement celles qui en manquent, surtout dans les pays d'ancienne chrétienté. L'envoi de missionnaires n'est jamais une perte, mais un gain. Enfin, le souverain pontife adresse une pensée aux chrétiens qui, en différentes parties du monde, ne peuvent pas professer ouvertement leur foi et la vivre dignement. Il salue avec affection ces témoins courageux, encore plus nombreux que les martyrs des premiers siècles, qui supportent avec persévérance apostolique les différentes formes actuelles de persécution. Le 23 juin dernier, de violents affrontements opposaient l'armée libanaise aux partisans de l'imam salafiste Al-Assir dans le quartier d'Abra, au Liban Sud. Défiguré par les éclats d'obus et les impacts de balles, ravagé par les incendies, le quartier a été déserté par la majorité de ses habitants. Certains sont pourtant restés dans leurs immeubles endommagés, voire en partie détruits, comme abandonnés du reste du monde. Début juillet, l'association libanaise Offrejoie a dépêché une centaine de jeunes volontaires qui s'affairent chaque jour sous un soleil de plomb à remettre le quartier d'Abra en état, réhabilitant les immeubles sinistrés afin de rendre à leurs habitants des conditions de vie acceptables. Écoutez Melem Khalaf, coordinateur des activités d'Offrejoie au Liban. Il est interrogé par Manuela Afiji.
Donc il y a plusieurs dizaines d'immeubles qui ont été touchés et parfois des appartements un peu éparpillés qui ont été complètement brûlés. Donc à partir de là, on ne pouvait pas laisser des dizaines de familles en dehors de leur maison. Et c'était une situation à l'habitude. Ces gens sentaient qu'ils étaient délaissés. Et surtout avec une situation au Liban qui va de plus en plus vers un semblant d'État qui n'arrive pas à tenir toutes les obligations qui sont mises à sa charge. Et donc ils peinent à pouvoir immédiatement réagir. À partir de là, je crois que les jeunes d'Offrejoie, les jeunes du Liban plutôt, ces jeunes qui sont un peu, on les appelle un peu au Liban les escadrons de la paix, se donnent un temps pendant un mois, trois semaines, pour venir en aide et réhabiliter les maisons endommagées et puis pour réhabiliter cette région. Cette idée-là donne de l'espoir aux gens. C'est vraiment pour crier un peu qu'il ne faut pas être dans juste l'image, je dirais, de l'incapacité de faire. Et à travers nos jeunes, on voit qu'on peut donner une espérance pour le pays.
Combien de jeunes sont sur place et comment s'organise votre travail ?
Premièrement, c'est l'intervention de nos ingénieurs. Les ingénieurs sont bénévoles. Déjà, ils établissent les plans d'action et tout ça, et ils font une liste des besoins. À partir des listes de besoins, on va commander ce matériel auprès de sociétés commerciales qui nous offrent le matériel. Et il y a des gens qui viennent, qui nous aident en mettant l'accent sur l'indépendance de l'initiative pour préserver l'autonomie de cette action et de ces jeunes et qui nous envoient de petites donations. Ces donations nous permettent d'établir, le paiement des contremaîtres de la structure, donc aussi dont on a besoin, qui sont des contremaîtres, des maçons, des peintres, auxquels donc s'associe le réseau des volontaires qui sont de la main d'œuvre. Donc c'est comme ça qu'on travaille et avec de petites donations, on commence à faire la différence. Et avant la fête du Fitr du 9 août, je crois qu'on aura ramené 67 familles dans leur maison. C'est ça le challenge.
Et comment les gens vous perçoivent-ils sur le terrain ?
Moi je crois qu'après un peu plus de 27 ans d'existence, ils savent pertinemment qu'Offrejoie est devenu un mouvement de jeunes qui va au-delà de toutes les discriminations et surtout il répond à un appel d'espérance. Juste pour vous dire un petit comment on a été accueillis le premier jour où nos jeunes étaient sur le terrain pour établir l'état des lieux. Et il y a une dame qui avait 75 ans avec sa fille d'une quarantaine d'années et puis elle regarde quatre jeunes et elle leur pose la question « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes qui ?» Et on leur a dit « Offrejoie ». Et puis elle regarde comme ça, lâche la main de sa fille. Elle leur a dit « C'est vous qui avez fait le quartier d'Achrafieh ?» Parce qu'il y a quelques mois, on a fait aussi malheureusement un quartier à Achrafieh. On l'a retapé suite à une explosion donc de bombes. Et on a retapé tout ça avec 1617 jeunes. Et quand la femme a entendu que c'était les jeunes d'Offrejoie, elle a lâché la main de sa fille et elle a commencé à embrasser les quatre gamins.
Ce n'est pas la première fois qu'Offrejoie entreprend de telles initiatives. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez participé à la reconstruction d'un des quartiers d'Achrafieh. À l'heure où les tensions se ravivent au Liban, notamment à cause de la crise syrienne, les initiatives de ce genre sont-elles de plus en plus nécessaires ?
Moi, je crois que notre action Offrejoie a existé en 1900, a été créée en 1985. C'était une réponse, un cri pour dire non à la guerre. La guerre voulait nous séparer les uns des autres sous certaines périodes. C'était chrétien-musulman. Aujourd'hui, c'est sunnite-chiite. Demain, je ne sais plus quoi. Je crois que notre but, c'est de maintenir l'espérance pour ce vécu ensemble. Le Liban ne mourra pas. Et je crois que c'est en posant des actes qu'on pourra faire grandir cette espérance.
Mélem Khalaf, coordinateur des activités d'Offrejoie au Liban. On est toujours sans nouvelles d'un prêtre catholique arrêté il y a plus d'un mois au Bélarus. L'église catholique locale a confirmé l'arrestation du père Vladislav Lazar de Borisov, mais n'a pas précisé les raisons de cette détention, les informations étant insuffisantes pour pouvoir se prononcer. Quelques jours plus tôt, le président du Bélarus avait déclaré qu'il s'agissait d'une affaire d'espionnage. Alexandre Loukachenko a accusé un employé des services spéciaux d'avoir espionné pour des puissances étrangères avec la complicité de représentants de l'église catholique. Selon le porte-parole de la conférence épiscopale, la nonciature apostolique s'est entretenue avec les autorités de cette affaire, et ce, alors que les rapports bilatéraux sont plutôt sereins. Jean-Baptiste Cocagne.
Régulièrement épinglé par les organisations de défense des droits de l'homme et par l'Union européenne, le régime biélorusse tient un discours habituellement conciliant à l'égard de l'Église catholique et du Vatican. Au début du mois de juillet, un haut représentant du Saint-Siège s'est rendu sur place. Porteur d'un message du pape François, le cardinal Toran a pu rencontrer le président Loukachenko, qui a fait un geste remarqué en accordant à l'Église catholique un terrain pour la construction du premier séminaire de rite latin dans le pays. En septembre dernier, le nonce apostolique Claudio Giugerotti avait pu visiter un camp où sont détenus des prisonniers politiques. Les catholiques représentent 20% des croyants en Biélorussie, pays majoritairement orthodoxe. La Biélorussie et le Vatican discutent de la signature d'un concordat qui réglementera les relations entre les deux pays. Mais sur le terrain, loin des déclarations officielles, des catholiques sont victimes de la politique de répression des libertés. Récemment, les ONG ont dénoncé le cas d'un catholique de 28 ans, inquiété par la police pour avoir mis en place chez lui un foyer pour les sans-abri, ainsi qu'un lieu de prière. Cet hiver, près de 30 personnes, SDF, alcooliques et toxicomanes, étaient hébergées dans son foyer. La police a fait irruption chez lui à deux reprises, en février puis en avril. Des ouvrages religieux ont été saisis. Le 11 juin, la police a entamé des poursuites judiciaires contre lui, en vertu d'un article du Code pénal qui réprime les activités d'organisations non enregistrées.
Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose à présent de réécouter un gros plan sur le cinquantenaire du Concile Vatican II, réalisé au mois d'octobre dernier. Manuela Affigi avait rencontré un spécialiste, le père Gilles Routier, professeur à la faculté de théologie et de sciences religieuses de Laval, au Québec. Un demi-siècle après son ouverture, que nous dit le Concile? Comment les pères conciliaires le percevaient-ils? Que nous apprend leur expérience vécue? Autant de questions auxquelles le père Routier avait accepté de répondre.
Le Concile Vatican II, comme tous les grands conciles qui ont marqué l'histoire de l'Église, arrive à un moment précis. Et ce moment précis n'est pas celui d'une hérésie, d'un schisme, etc. Mais le moment, Jean XXIII le nomme précisément, il dit « l'humanité est au tournant d'une ère nouvelle ». Pourquoi un concile et qu'est-ce qu'il voulait que ce concile soit? Il le dit également dans son discours d'ouverture. Il veut qu'au moment même où l'humanité entre dans une nouvelle phase de son histoire, que l'Église puisse l'accompagner et puisse lui proposer l'Évangile à ce moment précis. Et pour cela, il va dire ce qui est nécessaire aujourd'hui, ce n'est pas de condamner des erreurs, comme ça a été le cas dans d'autres conciles. Ce n'est pas non plus, comme il dit, de répéter simplement la doctrine qui est bien connue. Il va dire, si ce n'était que de ça, il n'y a pas de nécessité de convoquer un concile. Mais il y a nécessité de convoquer un concile pour que cette doctrine, on puisse arriver à l'exprimer d'une manière plus adaptée à notre époque. Et là, on n'est pas loin de la nouvelle évangélisation, en quelque sorte. C'est vraiment pour arriver à exprimer dans une manière plus appropriée et plus adaptée, la doctrine à notre époque. Et il va dire, si c'est nécessaire, il faut se mettre au travail et avoir beaucoup de patience dans l'élaboration de cette forme si on veut que cette doctrine soit connue et soit embrassée par le plus grand nombre.
Selon vous, appréhender le concile ne doit pas se faire seulement à travers les documents conciliaires, les décrets, les déclarations, etc. Mais il faut qu'on prenne le concile comme étant un fait à part entière. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Il ne faut pas dissocier ces deux choses-là. Et il faut les tenir ensemble. Pour les pères conciliaires, c'est un apprentissage. Et nous aussi, on peut apprendre beaucoup du concile. Par exemple, certains vont dire qu'on ne serait pas arrivé à une ecclésiologie de communion si les pères n'avaient pas fait au concile cette expérience de communion. quand on lit les journaux conciliaires écrits par les pères, à un moment donné, il y a une liturgie qui est célébrée par les Melkites, une autre fois par les Maronites, etc. Et les pères ne s'y retrouvent pas. Et certains d'entre eux écrivent, eh bien, ça doit être l'expérience que font les fidèles. Lorsqu'on leur dit la messe en latin, ils ne s'y retrouvent pas, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas vraiment avoir tous les fruits de leur participation à l'Eucharistie. Alors, il y a une expérience qui est forte pour chacun d'eux, et de cette expérience, notamment, c'est le cardinal Garonne qui va dire, écoutez, je savais que l'Évangile était à Goa, que l'Évangile était dans d'autres pays, mais dit, maintenant, je fais l'expérience physiquement, dans la rencontre des autres pères, je fais l'expérience de la catholicité de l'Église. Alors, il y a une redécouverte, et on va redécouvrir également la synodalité, c'est-à-dire du travail ensemble, etc. Il y a une redécouverte à travers l'expérience même du Concile, de choses qui appartiennent foncièrement au catholicisme et qu'ensuite on va porter à l'enseignement.
Vous parlez de l'expérience de la catholicité, etc. Vous pensez que c'est le grand défi aujourd'hui de l'Église?
Oui, plus qu'autrefois, si je puis dire. Si on prend le Concile de Trente, à son ouverture, il y avait 37 évêques, italiens surtout, etc. Donc, on s'adressait à un monde limité au plan culturel, limité à l'Europe. Et même à Vatican I, ce n'était pas une assemblée bigarrée et complexe comme à Vatican II. Maintenant, l'Église habite toutes les cultures et s'inscrit dans tous les mondes que l'on connaît. Et la catholicité, c'est la capacité du tout. L'Évangile est capable de toutes les cultures, est capable de les rencontrer toutes et de trouver un mode d'expression dans ces diverses cultures. Et c'est ça le défi. On peut renvoyer, par exemple, au numéro 22 du décret sur l'activité missionnaire de l'Église, Ad Gentes, et qui dit il faut qu'il y ait une reprise de cet Évangile de toujours, mais dans les lieux où l'Église habite maintenant.
Vous pensez que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui?
Cela n'est pas fini, naturellement. Je pense qu'on a fait des pas dans cette direction-là et que nous sommes plus avancés que nous ne l'étions. Parce qu'on n'est plus simplement dans une mentalité coloniale où c'est l'Église d'Europe qui s'installe en Amérique latine, qui s'installe en Amérique du Nord, et etc. Mais c'est un travail de longue haleine et cette appropriation, cette assimilation du christianisme dans les diverses cultures n'est naturellement pas terminée.
Est-ce que vous pensez qu'un autre concile serait nécessaire aujourd'hui, compte tenu du contexte?
Certains le disent. Pour ma part, je ne suis pas pressé d'y arriver. D'une part, parce que je pense que nous n'en avons pas encore fini avec Vatican II, et d'autre part, je pense précisément que avant d'aller dans un concile œcuménique ou général, il y a probablement à développer encore des formes de conciliarité régionale, plutôt que d'avoir un grand forum mondial et que ces assemblées régionales gagnent en maturité et également une possibilité plus grande de se déterminer quant à la discipline de l'Église catholique.
Vous dites on n'a pas encore tiré tous les enseignements du Concile Vatican II. Qu'est-ce que le Concile peut nous apprendre aujourd'hui?
Beaucoup de choses. Et j'allais dire les mêmes questions qu'il faut pousser plus loin. Le Concile, par exemple, nous a enseigné beaucoup de choses sur le rapport à Dieu, notamment à travers l'écoute de la parole, c'est la constitution des verbum, notamment à travers la célébration de la liturgie où l'humanité se tourne vers Dieu pour rendre grâce, accueillant le don de Dieu. Donc, le rapport à Dieu, comment entrer en relation avec Dieu? C'est pas une question qui est terminée, ça. Le rapport avec les autres. On voit que dans l'humanité, le rapport avec les autres, avec les non-croyants, on est dans un monde de plus en plus pluraliste. C'est encore plus actuel qu'au moment de Vatican II. Le rapport aux autres traditions chrétiennes, avec la culture, etc. Donc cela non plus n'est pas terminé.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook, Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.